Eh bien, bonjour à tous. Comme vous avez pu l'entendre avec le jingle, vous venez de plonger dans un nouvel épisode des Chroniques Tech de Pod Radio. Et qui cette fois sera une chronique jeux vidéo consacrée au salon de l'E3, édition 2009, qui était il y a 2 semaines, pour rappel. Alors, l'E3, qu'est-ce que c'est d'abord? L'E3, c'est, dans sa dénomination complète, l'Electronic Entertainment Expo, donc E puissance 3 ou 3E, donc avec les 3 E qu'il y a dans le superbe nom anglais que je viens de vous prononcer. Donc le salon pour les loisirs numériques qui existe depuis 1995. Alors seulement voilà, à cause d'une petite réorganisation, le salon avait été remanié les 2 années précédentes, donc en 2007 et 2008. Il avait été remplacé par un E3 Media and Business Summit, qui portait bien son nom d'ailleurs, vu que c'était que des présentations d'éditeurs et de constructeurs en petit comité dans des hôtels avec des chiffres, juste des journalistes, enfin pas rien de vraiment excitant. Alors, par contre, cette année, ça y est, les fonds reviennent et on a eu le retour d'un E3 absolument en pleine forme, avec un grand show floor, des conférences grandiloquentes, le Convention Center de Los Angeles rempli de visiteurs, de célébrités, de journalistes, il y avait quoi, des exposants, plein de lumière et aussi plein de babes. Alors, donc le cœur de cette chronique tech spéciale sera donc axé sur le renouveau de l'E3 et le changement du paysage du jeu vidéo, parce que faut quand même l'avouer, cette année, ça a été un grand changement. Qu'est-ce qu'il y a, Angelus ? Qu'est-ce qu'il y a par chou-fleur ?
Hein, quoi ?
Pourquoi tu balances chou-fleur dans la conférence ?
Tu as dit qu'il y avait un grand chou-fleur.
Chou-fleur, est-ce de... pouf pouf. Alors donc j'ai avec moi ce soir pour parler de cette E3, Lamberto. Salut Lamberto.
Bonsoir.
J'ai Steve Jobs aussi avec moi.
Bonsoir.
Et j'ai Angelus Yodasson.
Bien bonsoir.
Alors, ce que je vais faire pour vous faire participer un peu, c'est que je vais commencer par vous demander si vous avez noté par rapport aux E3 précédents une différence dans l'ambiance, dans les jeux présentés, comment ça a été fait et tout ça. Alors, est-ce que vous avez des avis?
Mais ouais, enfin, je rebondirai sur ce que toi tu avais dit justement par rapport au côté business, c'est-à-dire que bah, cette année l'ambiance y en avait comparée aux autres. Il y avait aussi beaucoup plus de monde et on a eu des grosses annonces au niveau des blockbusters qu'on attendait et même quelques surprises sur des jeux qu'on n'attendait pas foncièrement mais qui s'annoncent sous les meilleurs auspices.
Mmh. Effectivement, je ne peux que plus soyez. Alors, est-ce que les autres avaient quelque chose à dire pour l'instant ?
Disons que les 2 dernières années, tout ce qu'on avait, c'était vrai, oui. Il y avait des journalistes qui se baladaient dans tout Los Angeles. Donc déjà, les retours que nous, lecteurs, on avait, c'était que c'était un peu saoulant, quoi. Et puis, oui, je crois que c'est... Bon, déjà, on a aussi eu un très très bon cru, quoi, cette année.
Ouais. Ouais.
Je voudrais rajouter qu'on a eu quand même des conférences qui étaient des vraies conférences par rapport aux années précédentes où vraiment on s'embêtait, il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Voilà.
Exactement, ouais. Ce que j'allais dire, c'est que c'était vraiment, ils étaient là pour parler de jeux. D'ailleurs, ils n'avaient pas vraiment mis l'accent sur la technique, c'est-à-dire on n'avait pas de grand regarder notre nouveau moteur 3D, notre nouveau truc, notre nouveau machin. Il y avait surtout du jeu, j'ai remarqué.
En plus, là, c'était vraiment un spectacle. On voyait vraiment, c'était vraiment mis en scène par rapport aux années d'avant.
Voilà, c'est ça. Ouais, c'était un peu plus intéressant à suivre. Et surtout aussi, les quelques conférences que j'ai regardées, j'ai pas eu de grosses annonces de chiffres. Ils arrivaient pas en disant nous avons vendu tant, etc. Enfin, c'était vraiment juste, on était là pour parler de jeu, quoi.
Ouais.
Donc c'était quand même bien, bien appréciable. Alors. Comme je disais qu'il parlait jeu, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer, sur les grosses annonces de jeux de cette E3 avant de passer aux annonces techniques. On va passer sur les jeux, est-ce qu'il y en a eu beaucoup, il y en a eu de très bons et même des surprises, comme disait Angelus. Alors je vais commencer, je vais prendre une liste un peu au hasard avec sur toutes les machines ou voilà. Donc on va commencer maintenant par un jeu qui est Splinter Cell Conviction. Oui. Qui était présenté d'abord pendant la conférence Microsoft. Et qui est un jeu Splinter Cell, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est à la base un jeu d'infiltration et qui a été un peu remanié au fil des années, et maintenant on a un nouveau système de jeu, un nouveau héros, un nouveau Sam Fisher, et ça a l'air vraiment très explosif.
Oui, là par contre où je vais me pendre, c'est que je crois avoir entendu que finalement c'était une exclu 360.
Ouais, vas-y.
C'est que je pense que ça sera une exclusivité temporaire, comme beaucoup de jeux sur la 360.
Oui.
Oui, moi aussi.
Bah, quelque part, j'espère, parce que ça s'annonce clairement comme une tuerie, quoi.
C'est clair.
Je sais pas si vous avez vu le trailer, mais c'est quand même assez impressionnant. Enfin, moi, ce qui m'avait surtout surpris et agréablement, c'est le défilement du texte qu'il y a sur les murs.
Ah, sur les murs, c'est hallucinant, c'est super beau.
En fait, au lieu de faire des flashbacks à la con, en fait, ça se reflète sur les, pour les gens qui l'auraient pas vu, ça se reflète sur les murs pendant l'action, en fait.
Ouais. Ah, c'est ça.
Il y a les objectifs directement sur les murs aussi.
Voilà, c'est ça. C'est comme si en fait, on était un peu plus dans l'esprit de Sam d'ailleurs. Et puis donc on a une toute nouvelle mécanique de jeu, c'est-à-dire que on a une vision sur, par exemple, vous devez vous infiltrer dans une salle, on a une vision sur ce que voient les ennemis, où ils pensent que vous êtes, et vous pouvez réagir en conséquence, tout plein de choses. On a plein de façons différentes de rentrer dans une pièce et se débarrasser de des gêneurs. Enfin, c'est apparemment vraiment, ça va être vraiment intéressant à jouer et on verra bien ce que ça va donner parce que ça nous a quand même mis une grande claque.
C'est surtout intéressant dans le sens où on va aborder un autre aspect de la psychologie du fameux Sam Fisher qui là part clairement dans un esprit revanchard parce que d'après ce que j'en ai compris, on y a buté sa fille et il est pas super content.
Voilà, c'est
exact.
Ça.
Exact.
Et puis je crois aussi que niveau marketing, ça se voit aussi dans la revanche de Sony et son Metal Gear Solid.
Ouais, un peu oui. Alors là, voilà. Après, donc il y a eu d'autres annonces. Donc comme tu as enchaîné sur Metal Gear Solid, on a eu du aussi Hideo Kojima qui venait sur la scène de Microsoft ou de Sony pour
Microsoft.
Annoncer.
C'est clairement Microsoft en premier, puis c'est un peu ce qui a fait le.
Ouais, c'est un peu ce qui a fait le. Pour annoncer, alors.
Comment ça se fait qu'il vient là alors que normalement il fait que des trucs pour Sony?
Ouais, alors oui. il a annoncé quand même un Metal Gear dont il n'aurait pas vraiment le contrôle, enfin qui est supervisé, mais ouais, il est juste producteur.
Donc c'est
Metal Gear Solid Rising.
Exact.
Voilà, ouais. Donc Metal Gear Solid Rising sur 360 et
PS3.
D'accord, donc sur PS3 aussi.
Alors,
et il a annoncé aussi, ouais, vas-y.
Alors ce que je disais, peut-être PC, mais ça je suis pas sûr du tout. Moi ce que j'ai lu, donc Hideo Kojima seulement producteur. Ils allaient utiliser un nouveau moteur de jeu comparé à celui de Metal Gear Solid 4, un tout nouveau moteur de jeu, et Kojima a dit clairement qu'on en saurait plus en 2010. Et il s'agirait d'un spin-off sur Raiden. Raiden, pour ceux qui ne savent pas, c'est un des personnages principaux, ou le personnage principal plutôt, dans Metal Gear Solid 2 sur PlayStation 2.
Oui, en gros, c'est savoir ce qui y arrivait entre le 2 et le 4, je crois, c'est ça.
Un peu de légende, en fait, dans Metal Gear Solid.
Oui.
Voilà. Et donc ensuite aussi pour boucher les trous du scénario qui est assez complexe, vous l'aurez peut-être entendu, on a sur PSP un épisode par contre qui est là directement produit, enfin qui est directement supervisé par Hideo Kojima, donc là il en a les pleins pouvoirs, c'est Metal Gear Peace Walker, voilà. Qui donc là va boucher des trous dans le scénario. Alors par contre je ne sais plus où c'est, si Steve Jobs te m'aider.
C'est avant je crois, c'est parce qu'il y a les prémices.
Je crois que ça va suivre la lignée de MGS3, donc c'est-à-dire on contrôle Big
Boss et tout ça, quoi.
Voilà, avec Big Boss, ouais.
D'accord. Ah oui, c'est vrai.
Qui est en gros, pour ceux qui connaissent pas, le père du personnage principal en gros des Metal Gear.
Enfin, le père entre parenthèses, mais on va pas épiloguer là-dessus, sinon
voilà,
il y en a pour 3h30.
Alors, on enchaîne avec quelque chose qui m'a surpris, c'est une exclusivité PS3 qui est Heavy Rain. Alors là, c'est quelque chose d'assez particulier, ça serait presque quasiment une démarche d'auteur. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une histoire très centrée sur la psychologie de personnages, il n'y a pas vraiment d'action à gogo. Et c'est surtout un jeu, alors ça ne s'apparenterait pas à du cinéma interactif, mais quasiment, c'est-à-dire que...
C'est du QTE.
Comme j'ai pu le lire, c'est pas du Dragon Slayer, mais ça se rapprocherait plus de Shenmue pour ceux qui l'ont fait.
C'est ça, c'est-à-dire que vous avez le contrôle du personnage, mais souvent vous avez des grandes cinématiques où vous avez le contrôle sur cette scène d'action en appuyant sur des boutons à un moment donné. Et ce qu'il a voulu faire, apparemment, l'auteur de ce titre, c'est que les boutons n'apparaîtront pas en gros, en bleu, en jaune, en vert. Enfin, ça sera vraiment juste un petit signe. Très, très discret sur le personnage ou quelque chose comme ça, genre une croix, un triangle, et en fait ça, apparemment d'après tous les retours, ça renforce vraiment l'immersion dans le jeu et le fait qu'on a vraiment l'impression d'avoir un incidence sur l'histoire.
Sachant qu'une des particularités aussi, c'est qu'il n'y a pas un personnage principal, mais quatre, je crois, quatre personnages principaux. Et que si jamais, d'après ce que j'avais compris, il y a, vous échouez dans un des personnages et qu'un des personnages principaux meurt, en fait, ça vous coupe pas le jeu, mais ça vous retravaille, ça vous remanie un peu la trame narrative pour que l'histoire se continue à seulement trois personnages et ainsi de suite.
Oui,
exactement, ouais.
Et pour la minute Chauvin, il est réalisé par des
Français. Il est français.
Voilà,
c'est ça.
Cocorico. Il n'a pas du tout un nom de français d'ailleurs, mais il est français.
Développé par le studio français Quantic Dream, dirigé par David Cage. Effectivement, ce n'est pas du tout un nom qui sonne français, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc on va enchaîner maintenant. Alors je sais pas, je prends un jeu au hasard, on va dire, pour changer un peu de support. Tu veux qu'on balance la Wii comme ça ou...
On va
commencer par la première annonce qu'ils ont fait dès les premières minutes, alors qui est New Super Mario Bros. Wii, okay. Qui s'apparenterait en fait à un New Super Mario Bros. Donc avec la technique de jeu de Mario Bros, c'est-à-dire des décors en 2D, là comme l'épisode DS, des personnages en 3D et jouable à 4, c'est-à-dire qui reprend l'organisation de jeu de Zelda Force World Adventure avec 4 personnes qui peuvent jouer, qui doivent faire de la coopération mais aussi être en compétition, donc ça peut vraiment donner des trucs assez marrants, je pense.
Ouais, mais le problème sur la Wii, c'est que il faudrait qu'ils arrivent à incorporer un micro, parce que c'est un petit peu le problème en mode coopération, quoi.
Bah pour l'instant apparemment c'est pas du tout axé sur le multijoueur, sur l'internet, c'est-à-dire que c'est juste en local, à 4 manettes.
Ouais, ça peut être sympa, ça, c'est vrai. Ouais.
Bah de toute façon il y a très peu de jeux qui sont multijoueurs, je crois, sur la Wii. Enfin il y en a, il y a le Mario Kart.
20 multijoueurs qui sont multijoueurs par internet.
Voilà, parce qu'il y avait dit dans un débat d'octet, le but de Nintendo c'est surtout 4 potes sur un canapé plutôt que 4 potes aux 4 coins du monde.
Oui, après c'est vrai qu'ils auraient peut-être pu balancer ça vers internet, mais bon, ils ont pas l'air de vraiment vouloir développer ça, donc... Voilà. Donc, c'est une idée intéressante. Bon, on verra bien ce que ça donne. Et ils ont aussi continué dans le Mario avec un Mario Galaxy 2, tout simplement. Alors apparemment, ça serait le même monde que Mario Galaxy sur Wii, qui avait été très bon. Ça serait à 95% des niveaux originaux. Il y aura quelques reprises. On aurait de nouveaux personnages comme Yoshi. Après, on n'en sait pas vraiment plus, mais je pense que les nouvelles mécaniques de jeu introduites avec Yoshi et les nouveaux niveaux vont être intéressantes. Après, à voir si on n'aura pas vraiment l'impression de payer pour un add-on
ou quelque chose. 5, ouais. C'est ça.
Ouais, on verra
ça,
bien.
Ça a l'air d'être plutôt 1.5. Moi, je.
Bah, c'est vrai qu'il y a les gens qui ont fait, oh tiens, à un moment d'ailleurs, quand on regardait la conférence Nintendo, on se demandait s'ils repassaient pas des vidéos du premier.
Ouais, effectivement. On revoit quelques. Je me souviens d'avoir vu la vidéo, on revoit un grand boss du jeu, mais il y a une nouvelle mécanique pour le battre, de pouvoir utiliser un forêt pour passer au milieu de la planète. Enfin voilà, c'est. On verra bien ce qu'ils ont mis dedans. Après, si ça s'essouffle pas un peu au bout d'un moment, on verra bien ce que ça donne.
Parce que le jeu, déjà au départ, il s'avère assez répétitif, hein, quand même. Faut le dire,
ouais,
quand
même,
on joue 20 heures dessus, bon.
Ouais, voilà, même si il y a beaucoup de bonnes idées, c'est vrai qu'au bout d'un moment, voilà.
20 heures d'affilée dessus, forcément, bon, ça peut.
Non, mais pas 20 heures d'affilée, mais même la musique, tout ça, ça fait un peu toujours la même chose, c'est un petit peu embêtant au bout d'un moment.
Bah, disons que le but des Mario, au départ, c'est surtout d'instaurer une nouvelle chose à chaque fois. Donc, on avait par exemple le Mario 64 où il y avait la 3D, et le Mario Galaxy où il y a vraiment l'intégration de la Wiimote dans le jeu. Donc, là, de là à faire un Mario Galaxy 2. À mon avis, il ne va pas y avoir de nouvelles améliorations, donc on ne peut pas s'attendre à une révolution, mais ce sera une évolution.
Voilà, donc donc rendez-vous en 2010, il me semble, pour voir ça, ou alors en fin 2009, je ne sais plus. Alors, on va prendre autre chose. Un grand titre attendu pour la conférence Ubisoft, qui était donc Assassin's Creed 2.
Il est apparu sur la conférence PS3. Hein.
Ubisoft qui était les meilleurs, parce que c'est quand même eux qui ont fait les grosses annonces cette année, Ubisoft.
Voilà, c'est ça.
Ils sont pas tenus pour rien, le 3, quoi.
Voilà, j'en parlerai un tout petit peu après pour les conférences, mais c'est vrai qu'eux, ils sont vraiment pas venus pour rien. Et donc, dans leur valise, ils avaient un Assassin's Creed 2 qui était vraiment très attendu par rapport au premier, qui s'avérait très bon, très original, mais un peu répétitif sur les bords quand même.
Pas qu'un peu, mais...
Pas qu'un peu, oui, je sais bien, je suis en train d'y jouer, donc c'est un peu répétitif, même si c'est très agréable. Donc là, on aura vraiment... on a la continuité de ce qui avait fait l'originalité du premier, c'est-à-dire une période de l'histoire recréée, une facilité de jeu toujours au rendez-vous, et ça sera toujours un petit...
Oui. Et puis, il peut nager surtout.
C'est ça.
C'est joli.
Enfin.
Parce qu'elle a l'air intéressante, c'est surtout toutes les améliorations du gameplay au niveau des combats et des assassinats.
Oui, aussi. Oui.
En fait, tu peux piquer les armes des gardes. Et tu peux, pour ceux qui avaient fait le premier, connaître bien les bottes de paille, bah maintenant tu peux tuer à partir des bottes de paille.
Voilà.
Et on peut se faire choper à l'intérieur.
À l'intérieur.
Voilà.
C'est ça. C'est-à-dire que comme le premier était sympathique mais un peu trop simpliste, c'est-à-dire que c'était on résolvait un peu le fait que des gardes nous aient vus un peu trop facilement.
Oui.
Ça dépendait des fois, mais un peu trop facilement quand même. Et là, ça va être un peu complexifié, donc comme il a été dit là, donc des combats un peu plus, vous voyez, un peu plus différents. On peut se faire repérer dans les anciennes cachettes qu'on avait, c'est-à-dire sur un ventre de personne, dans une botte de paille, et tout un panel de nouveaux mouvements, c'est-à-dire qu'on devrait normalement pouvoir faire à peu près n'importe quelle action de n'importe où, sur un mur, dans une botte de foin, à pied, en l'air. Donc, bien sûr, vous l'avez dit, on peut nager maintenant, hein, mais en même temps, comme le lieu central de l'action est à Venise, je dis bien central parce qu'on va aussi aller dans d'autres villes italiennes, et que le monde en dehors des villes aura cette fois-ci un intérêt. Donc s'il avait vraiment pas pu nager dans Venise, ça aurait été quelque chose de vraiment très énervant à la longue.
Il va aussi s'inspirer, puisque ça se passe au 16e siècle. Donc voilà. pour ceux qui préparent le bac, 16e siècle, c'est 1500, c'est l'humanisme, et c'est aussi Léonard de Vinci, et il y aura énormément d'inspiration avec notamment la machine volante qu'on avait vue pour la présentation d'Ubisoft.
Voilà, Léonard de Vinci aura un petit rôle. Alors tu me disais qu'il avait été représenté pendant la conférence PS3 parce qu'ils ont refait un exemple de gameplay, mais il y avait aussi un épisode PSP qui était annoncé, qui sera lié d'ailleurs à Assassin's Creed 2, qui est Assassin's Creed Bloodlines, et qui reprend le personnage du premier, qui est Altaïr, je crois.
Oui.
Et qui nous permettra d'ailleurs via le jeu de débloquer des armes qu'on pourra acheter dans l'épisode 2, via la connexion sur PS3.
Voilà, ouais, Ubisoft a préféré se concentrer sur la PS3 que sur la 360. Bon, ils font bien comme ils veulent, hein. Mais il y aura donc du contenu additionnel qui sera exclusif temporairement, j'espère, pour la PS3, et aussi la connectivité PS3-PSP.
Oui, je pense que, si tu veux mon avis, les armes exclusives sur PSP vont arriver au bout de quelques temps sous forme de downloadable content, enfin de
DLC.
Téléchargeable, pardon, de DLC sur le Xbox Live, donc ça va arriver très rapidement, je pense.
Voilà,
Est-ce qu'on sait si ça sera payant?
Forcément.
Ah, bah, ça sera sûrement payant, oui. De toute façon, vu que le jeu sur PSP est payant, je vois pas pourquoi il ferait pas payer les armes sur le Xbox Live. Après, faut voir s'il y a vraiment un intérêt, mais on verra bien.
Oui. Okay.
Alors, on enchaîne. Alors maintenant, on va passer dans la catégorie jeux de voiture. Tiens, c'est parti. Alors là, il y a eu un gros combat sur cette E3, entre trois grandes licences. Alors deux anciennes et une nouvelle. Alors je vais commencer par la nouvelle, d'ailleurs, qui m'a le plus impressionné, qui est une licence de EA Sports, d'ailleurs. Si je me rappelle bien, oui, EA Sports, qui est Need for Speed Shift. Alors c'est un Need for Speed, donc là on connaît les grosses caisses tunées qui font des courses. Là c'est un peu différent, c'est-à-dire que c'est plus axé sur de la simulation, on verra bien comment est le gameplay. Mais le plus impressionnant, c'est qu'ils décrivent leur jeu comme un first person driving. C'est-à-dire que quand vous êtes en vue cockpit, qui est le plus intéressant, vous avez tout de suite donc des graphismes assez joli, même voire très beau, comme de toute façon les trois concurrents se battent là-dessus, ils ont intérêt, en mode cockpit, et au fur et à mesure que vous prenez de la vitesse, vous avez une sorte de flou qui s'intègre avec la zone nette, qui est surtout sur le point que votre personnage regarde au loin dans le virage qui va arriver à 200 km/h. Et aussi pendant les crashs ou les secousses, vous avez vraiment un effet de flou incroyable. Enfin voilà, c'est vraiment, ils ont vraiment axé ça sur le son aussi et une sorte d'expérience à la première personne de conduite.
Il y a aussi pour la simulation de course où, par exemple, si le joueur est plutôt du genre à foncer dans tous les autres concurrents, ou s'il est plutôt à vouloir se rapprocher, à attraper la meilleure corde, faire le meilleur temps, il y aura aussi des améliorations qui lui seront spécifiques. Ce sera spécifique en fonction du joueur.
Voilà, c'est ça. On avait vu quand il faisait un dépassement un peu rapide, il gagnait un rang il gagnait un point dans ce rang-là, etc. Enfin, le joueur évoluera en fonction de ce qu'il fait. Donc c'est vraiment en fait ils ont axé ça sur sur un conducteur. Alors ensuite, on a donc chez Microsoft, on a Forza 3, et donc lui qui est, je dirais, qui reste dans la lignée des Forza quand même. Ils ont vraiment dit, regardez, on a amélioré notre chose, donc on a amélioré, on a mis de la gestion des dégâts, on a mis de la conduite, on a amélioré nos menus et notre interface. Et donc apparemment ils ont envie de dire que Forza 3 va absolument exploser tout le monde. Alors j'ai envie de dire, c'est vrai que par rapport à Gran Turismo, oui, il peut faire rire, hein. Je me souviens quand même de, il me semble, l'équipe de Yamauchi qui était venue carrément prendre des notes. Par rapport surtout à l'interface et peut-être à la gestion des dégâts, parce que c'est quand même vraiment ce qui manque à Gran Turismo, même si apparemment on aurait vu que dans le... Donc j'en parlais du Gran Turismo 5 sur PS3 et le Gran Turismo enfin sur PSP qui vont arriver, ils auraient mis la gestion des dégâts. Alors on ne sait pas, on verra bien encore.
Si,
vous êtes vraiment sûr?
Pour Gran Turismo 5, moi j'ai lu que...
Oui, normalement il y en aurait un.
Voilà, oui, ils avaient fait une physique... Enfin, ils avaient recréé pas un nouveau moteur de jeu, mais ils avaient ajouté une physique pour de collision des dégâts.
Je peux dire quelque chose sur Forza 3. C'est vrai que c'était plutôt risible. Ils étaient plutôt en train de s'auto-congratuler, en train de se dire on a fait le meilleur truc, et c'était on attend de très loin le comment ils vont se péter la gueule, excusez-moi du terme, mais c'est vrai que c'était plutôt on est les meilleurs, etc. quoi.
C'est un peu dommage.
Ce qui peut pas leur donner tort, c'est que à première vue, il y a quand même les gars de Gran Turismo justement qui avaient l'air assez impressionnés parce qu'ils ont sorti.
Ouais, voilà, c'est ce que j'ai
dit. C'est vrai qu'ils avaient quand même des ressources avec 300 voitures, etc. Mais bon.
Si ça se trouve, ils remplissaient un carnet de blagues, hein. Alors.
C'est sûr que ça avait l'air plutôt.
Si c'est pas de l'inobjectivité, c'est que je sais pas la déceler. en même temps, on verra bien la course que c'est, mais petit jeu de mots, la course que c'est. Je me souviens quand même des deux trailers, c'est que sur Forza, on avait surtout quelque chose de grand spectacle avec des voitures qui faisaient du dérapage entre elles, sur Gran Turismo, c'est vraiment de la course.
Un petit côté Fast and Furious, en fait, tu vois, dans le truc. Assez chaud et grand public, quoi.
Donc c'est moi ce qui m'a un peu déplu.
Qui devient arcade un petit peu dans la beauté, tout ça. Ça va un peu trop vite et tout ça, je trouve, moi.
Ouais, moi aussi, mais on verra bien ce que ça donne. Mais je pense que la bataille promet d'être intéressante.
Et rude. Puisque Gran Turismo 5, c'est quand même un jeu qui fait que les gens vont acheter la console. C'est un système seller, ou je crois que ça s'appelle comme ça.
Oui, bah pareil pour Gran Turismo sur PSP, d'ailleurs le premier épisode sur PSP qui était vraiment attendu, donc voilà, je pense que c'est ce qui va faire vendre la PSP et même leur nouvelle PSP Go qu'on évoquera tout à l'heure. Je pense que cet épisode PSP qui était vraiment attendu va faire vraiment vendre. Alors, on va peut-être enchaîner parce qu'on en a encore quelques-uns à faire. Je vais repasser sur la Wii, c'était aussi Ubisoft, avec Red Steel 2. Donc la suite de Red Steel, donc avec la Wiimote, tir à la première personne et même combat au sabre à la première personne. Alors le premier avait été assez controversé parce que au niveau graphique c'était pas non plus ce qu'il y avait de plus incroyable, mais et aussi le fait que la Wiimote n'était pas vraiment assez précise pour ce qui avait été rêvé au départ. Alors là par contre avec le Wii Motion Plus, ça a l'air vraiment complètement plus avancé. Et le second aussi a l'air d'avoir enfin une patte graphique et une ambiance propre. Donc je pense que tous ceux qui l'ont essayé apparemment étaient très contents de la détection de mouvement et de comment on pouvait jauger les coups, par exemple avec le sabre, un coup fort, un coup faible, la détection des directions. Et vraiment ce qu'on a pu en voir du premier niveau, l'ambiance graphique est vraiment très agréable. On a une sorte d'ambiance désert, Arizona, cow-boy, mélangé à un peu de Japon, comme on avait vu dans le premier. Alors, je sais pas ce que vous en pensez.
Ben moi personnellement, bah... vas-y.
Non, toi vas-y.
Ok, moi j'aimerais bien, contrairement au premier qui pense au gaucher, parce que moi jouer avec la main droite pour viser c'était pas très pratique. Et c'était pas du tout intuitif. Voilà.
Oui, je pense. Alors après, ouais, faudrait voir s'ils y pensent. Ce sera une question à leur poser, mais comme on les a pas sous la main, on peut pas le dire. Non. Donc Steve Jobs, avait une question, toi ?
Une remarque ? Moi, j'ai pas le plaisir d'avoir la Wii à la maison, mais tous les copains que j'ai qui l'avaient acheté, puisque je crois qu'elle était partie en même temps, enfin le jeu était parti en même temps que la console. Oui. Et ils m'avaient dit, ils étaient un peu déçus, quoi. Oui. C'est dommage parce qu'il y a un bon potentiel. Enfin, c'est vrai que ça peut être sympa à développer, mais espérons que ce soit mieux. Ouais.
Oui, ça a l'air d'être vraiment mieux. Ils ont amélioré leur copie. Alors on l'attend en tournant. Donc ensuite on peut enchaîner. Alors qu'est-ce qu'on pourra balancer? Alors ah oui, Avatar avec James Cameron qui est monté sur scène pendant la conférence Microsoft, il me semble, oui, pour présenter donc l'adaptation de son film qui n'est d'ailleurs même pas encore sorti. Je dis n'importe quoi. La conférence Microsoft, la conférence Ubisoft, non? Oui, la conférence Ubisoft. Et donc, avec un grand jeu annoncé qui représente quand même vraiment la liaison entre le cinéma et le jeu vidéo. D'ailleurs, même, ce que j'ai pu en entendre, il y a même eu des développeurs de chez Ubisoft qui ont été mis à part pendant le développement du jeu pour faire des cinématiques directement pour le film. Alors là, c'est voilà, James Cameron avait vraiment envie de travailler avec Ubisoft apparemment, donc on va voir ce que ça va faire.
Et d'après, oui, bien sûr, en plus Avatar, d'après ce que j'ai compris, ça sera un des premiers films en 3D en fait.
Voilà, c'est ça.
Donc ça existe pas déjà les films en 3D là ? Je vois les pubs de partout pour Lao, Pixar et compagnie. Enfin, c'est seulement dans certains cinémas,
Non, là, ça sera pas encore en 3D. Le premier Pixar en 3D sera Toy Story 3, mais bon, on va pas épiloguer là-dessus, mais oui. Voilà.
C'est-à-dire qu'ils vont faire des films en 3D ?
Bah, en fait, non, c'est-à-dire que tu vas rentrer dans le cinéma avec une paire de lunettes rouge et bleu, tu sais, et ça va te faire des films.
Comme à Vulcania.
Voilà, exactement. On verra bien ce que ça donne. Hein. Alors, donc voilà, Avatar avec donc James Cameron qui est tout excité, qui est resté une demi-heure sur scène. Qu'est-ce qu'on peut... Ah oui, alors là j'ai envie de dire, on va passer maintenant dans la renaissance de licence avec, j'ai envie d'en citer deux titres. Je vais citer Castlevania Lord of Shadows et Golden Sun DS.
Et Monkey Ball aussi. Maintenant il a été annoncé juste avant le 3.
Ah, juste avant le 3, j'ai pas noté pendant le 3 alors.
Oui. Mais ils ont annoncé, enfin Sega a annoncé la renaissance des Monkey Ball.
Ah, sur quelle plateforme ?
Oui, je crois que c'était toutes les... Ou la Wii.
Partout, ça peut faire des sauts.
Voilà.
C'est ça, exactement.
C'est un peu Sega en ce moment, c'est un peu leur optique, donc...
Normal, ils en ont plus, ils veulent en faire des sauts.
Non, c'était pas Monkey Ball, je dis une connerie, c'est Monkey Island.
Oui. J'allais le citer, oui, effectivement.
Oui, qui est un remake du premier où tu pourras.
C'est ça. Ils vont
compris, soit avec la version old school, c'est-à-dire avec avec deux pixels qui font ton bonhomme, soit avec une définition plus ou moins HD et rajeunie du truc.
C'est ça. Donc en fait, on va avoir des remakes des légendaires jeux d'aventure
sur PC et WiiWare
de LucasArts.
Sur PC et WiiWare, voilà. De LucasArts. Donc ça, c'est attendu au tournant. Donc pour ceux qui n'avaient pas joué à ces petits bijoux, parce que c'est quand même vraiment sympa, jetez-vous dessus. Sur PC, ça sera facile à trouver. Je pense pas que ça sera vraiment super cher. Alors donc, je parlais aussi de Castlevania Lord of Shadows. Alors Castlevania, qui est une licence un peu oubliée depuis quelques temps et qui a été repris. Alors attention, là j'étais vraiment surpris, sous la supervision de Hideo Kojima. Oui. Alors lui, il est partout en ce moment.
Oui. C'est
Donc
clair.
il a repris ça, on a du Castlevania, un gros beat'em all en 3D, apparemment assez classe. On verra bien comment il reprend l'histoire des anciens, mais pour l'instant ça s'annonce quand même très bien. Oui, vas-y.
Y a aussi dans le renflouement là des vieilles
Licence.
des oldies, voilà, des vieilles licences, enfin, pas vraiment. Il y a Metal Gear Solid 1 qui va ressortir sur le PlayStation Store le 18 juin.
Bah,
Ah, donc ça
ils
va
reprennent le
être
concept
voilà
ils
sur
reprennent
PlayStation Store, ça va être
voilà.
l'appel du 18 juin pour Metal Gear Solid.
Voilà, ils ressortent le concept un peu de vieux jeu
Et
à
aussi
la
l'appel à
Virtual
Denis,
Console.
pour ceux qui ont fait le 1.
Oui. Voilà, donc. Et Hideo Kojima, lui, a envie de d'être partout, je crois, en ce moment. Et puis, un truc qui a fait vraiment plaisir aussi, on l'attendait, mais pendant la conférence Nintendo, il a été balancé comme ça, c'était Golden Sun DS. Alors, un grand RPG de la Game Boy Advance, en deux
J'avais fait les
épisodes,
deux.
qui n'avait pas été fini, et qui revient sur DS. Alors, on a eu une petite vidéo avec des invocations en trois dimensions, etc. Ça a l'air vraiment très sympa, ça a l'air très Golden Sun. C'est pour 2010, malheureusement, et on l'attend vraiment de pied ferme.
Le seul truc où j'étais un peu déçu quand j'ai vu la vidéo, c'est que le personnage m'a l'air un poil moins charismatique que dans la version GBA.
Alors ça je sais pas, enfin charismatique au niveau de la vue
Ouais,
aventure
enfin,
ou
il
de la
fait
vue
moins.
combat.
Je sais pas, il m'a l'air moins manga, moins.
Bah en
Je
même
sais
temps
pas,
ouais
j'ai
c'est
beaucoup accroché
je pense
sur le design que sur.
avec la 3D de la Wii je pense qu'ils de la DS, lapsus révélateur. Avec la 3D de la DS, je pense pas qu'ils aient pu faire vraiment. Enfin je sais pas si c'est un parti pris ou si c'est juste une version bêta. On verra bien. En tout cas, je pense que là, ça y est, il s'est révélé et tout le monde va l'attendre au tournant, celui-là.
Question de la ménagère de moins de 50 ans. Golden
Oui.
Sun, est-ce que c'est celui où il y avait la cartouche GBA qui dépassait, il y avait besoin du soleil pour
Non, non,
recharger?
ça c'était un truc sur les
Non.
vampires, je sais plus ce que c'était d'ailleurs.
D'accord.
Oui,
Mais non, non,
et
c'est
pas
pas les Golden
Lolita.
Sun.
Ok, merci.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas fait maintenant? On va passer sur PS3 un petit peu. Bon, là, c'est de la grosse licence qui était attendue, God of War 3. Alors encore
Du beat them
du
all.
gros beat'em all. Oui, du gros beat'em all bien bourrin,
Ouais.
bien gore. Faut vraiment aimer, en
Même
fait.
pire que les autres, hein, parce que
Ouais, même pire que les autres.
quand on voit surtout les espèces de finish move qu'il y a sur les ennemis, dans la série, je prends ta corne et je m'en sers pour t'éventrer, c'est un peu. Je pense qu'il va prendre son plus 18 facile, lui. Hein.
Oui, je pense. Oui, là, c'est même plus 24, si mon avis, ou un truc comme ça. Parce que vraiment, là, c'était vraiment trop, quoi. Donc ça, c'est voilà. Sur PS3, on a aussi, alors, Fumito Ueda qui revient en force après nous avoir fait Ico, après nous avoir fait Shadow of the Colossus, qui était
Shadow of the Colossus.
de superbes jeux. Il revient avec The Last Guardian. Qui raconterait apparemment l'histoire d'une sorte de chimère et la relation entre une chimère et un jeune garçon. Alors, on a eu deux versions d'une bande-annonce qui était vraiment absolument magnifique, comme d'habitude, et on peut s'attendre à quelque chose de très très abouti au niveau psychologie, au niveau tendresse, au niveau poésie, et même au niveau
Dans la lignée
gameplay,
de.
parce que voilà, dans la lignée d'... Ah, en fait, c'est vraiment un
Pas
mélange
plus dans la
d'Ico et
lignée
de
d'Ico,
Shadow of
mais
the
non.
Colossus. Bah,
Et
c'est un mélange un peu, mais.
pour ceux qui connaîtraient pas donc The Last Guardian, en fait c'est Trico. Ça avait été annoncé comme ça avant. Il faut le
C'est
dire quand
ça.
même.
Oui, d'ailleurs. Mais
Mais
The Last
c'est comme
Guardian,
ça.
bizarrement, je pense que ça sera plus vendeur en France.
Oui.
Oui.
Rien que faire du tricot.
C'est clair.
Alors ça fallait la sortir. Donc voilà.
Ouais.
On attend encore Fumito Ueda parce que je pense qu'il peut encore nous ravir encore une fois parce que vraiment c'est quelque chose, c'est vraiment du jeu vidéo à part ça, je pense.
C'est ça, c'est
C'est plus
plus à la
tard.
rigueur, c'est même plus de la rigueur de l'expérience que du
Ouais.
jeu vidéo, parce que
Moi
c'est ça.
ce que vous
C'est
dites.
vraiment à part, quoi.
Ouais, je
Et
connais.
sachant que voilà, c'est pas parce qu'on dit expérience que ça va être des trucs un peu à la Flower ou machin, où il n'y a pas de. Enfin là, il y a vraiment du contenu, quoi. C'est pas pour essayer de dédouaner le jeu qu'on qualifie ça d'expérience, c'est que c'est vraiment des immersions à part, quoi.
C'est des belles histoires.
Bah moi, bizarrement, moi je connais pas du tout le jeu ICO, mais quand vous m'en parlez, moi ça me fait bizarrement, ça me ferait vraiment penser à ce qui était sorti sur Sony, à savoir Linger in Shadows et Flower, qui sont actuellement les deux jeux énormément téléchargés sur PlayStation Store US. Et ces deux expériences, bon, que je conseille à tout le monde, quoi, aussi.
Alors on enchaîne maintenant et on passe à une grosse bande-annonce qu'on a eue, qui est Star Wars The Old Republic. Alors là, on n'a rien vu du jeu, mais on en a juste pris plein de la gueule, littéralement.
Comme oui. disaient nos amis de Gameblog, et je suis assez d'accord avec eux, c'est faites le film, quoi. S'ils font un film avec la même qualité que la bande-annonce qu'ils nous ont fait, on le veut, quoi.
Ouais, mais je pense pas qu'ils auraient le temps de le faire. Alors après, il faut voir le jeu, parce que ça a l'air d'être un MMO, donc un jeu massivement multijoueur, mais qui a l'air vraiment très original dans sa façon d'être, c'est-à-dire qu'on a... On a une mécanique de jeu différente, on a un scénario dans lequel on va pouvoir avoir une incidence avec des joueurs contrôlés par l'ordinateur ou non, donc c'est pour ça que c'est massivement multijoueur. Et on a des mécanismes de combat qui vont être aussi différentes, par exemple je crois qu'il y a une classe qui est les contrebandiers qui peuvent se mettre à couvert, des choses comme ça, donc ça va vraiment amener une type de MMO différent. C'est franchement pas un mal, vu que je ne suis pas vraiment fan de World of Warcraft, très franchement.
World of Warcraft, c'est un MMORPG, attention.
Et RPG, bah là, c'est un peu un MMORPG aussi, sauf que c'est vraiment différent dans l'approche, j'ai envie de dire.
Voilà, parce que d'après ce que j'ai entendu, il y aurait aussi à peu près deux systèmes de jeux différents, dans le sens où il y aurait un aspect où tu peux vraiment tout customiser si tu passes 85 heures par jour devant ton PC, oui c'est possible. Ou sinon tu pourras jouer plus par petites sessions dans la série où t'as que demi-heure et pour faire avancer bonnement et gentiment.
C'est ça, c'est ce que je prends comme exemple, exactement. C'est que pour moi le gros défaut de World of Warcraft, c'est que les serveurs, enfin le monde a besoin de joueurs pour tourner. Alors que dans l'aspect de Star Wars The Old Republic qui est pour l'instant annoncé, c'est que ça pourrait tourner sans joueurs. C'est-à-dire que le monde...
C'est vraiment un univers qui vit à part, et puis c'est à toi de t'y intégrer, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement.
Les autres, c'est à toi de faire remarcher l'univers, ce qui est un peu différent.
Ouais, donc on attend vraiment ce que LucasArts et BioWare vont nous balancer dans la figure, sûrement plus l'an prochain, à la fin de l'année pour...
BioWare, je crois que c'est déjà eux, si je veux pas dire de bêtises, qui avaient déjà fait les très bons Knights of the Old Republic,
oui, KOTOR, ouais, Knights of the Old Republic. Voilà, qui sont... Bah, c'est un peu... L'univers est... C'est un peu...
Non, on va dire... Bah,
Dans la chronologie Star Wars, c'est la même époque. À 300 ans près. Je vais pas m'étaler parce que sinon on va en perdre quelques-uns, mais voilà, donc on verra bien à la fin de l'année les informations qu'on va avoir. Alors on va passer maintenant à... Tenez, alors là c'est tous les fanboys Final Fantasy vont crier ouais super, alors un Final Fantasy 14 online, en parlant de MMORPG. Donc apparemment un Final Fantasy online, on n'a pas vraiment plus d'informations.
Non, on a juste une vidéo
avec un univers qui se rapproche de l'ancien Final Fantasy Online, c'est-à-dire le 11, et en rupture avec l'univers et les graphismes du 13,
c'est ça. Donc là, on s'attend à du très lourd. Je pense qu'ils vont apprendre de leurs erreurs passées, enfin j'espère en tout cas.
Si je peux me permettre, ouais, vas-y.
Pour parler de Final Fantasy 13, pour ceux qui n'ont pas écouté un petit peu les actualités, il est aussi annoncé sur la 360, voilà.
Oui, effectivement.
A contrario du Versus 13 qui est que sur...
Et du 14 qui sera sur PC et sur PS3.
Je m'y perds complètement, mais bon, c'est pas grave. C'est vous les pros.
On nous a perdu là.
si je puis me permettre, moi, je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment l'impression que cette année, c'est l'année du MMO. Parce que si on regarde bien, on a donc déjà le Final Fantasy 14 là. Bon, qui sortira l'année prochaine. On a cité tout à l'heure le Star Wars, et on va aussi avoir le MAG chez Sony, et oui, aussi le Agent chez Rockstar. Alors ça peut-être te permettre d'enchaîner, Gugus.
Ouais. Enfin, le MAG, je sais pas si on peut tellement... Ouais, si tu es même...
Parlez-en, vas-y.
MAG, c'est 256 personnes qui se mettent sur la tronche.
Ouais, non mais c'est vrai qu'on a tellement l'habitude que le MMO soit du MMORPG qu'on a un peu du mal à le classer dans cette...
Mais c'est un jeu massivement multijoueur.
Oui, pourtant c'est du massivement multijoueur. Et massivement, c'est 256 au lieu des 16 ou 32 habituels. Donc.
Voilà.
Bah après on verra, parce que le PlayStation Network, c'est pas... Enfin, le niveau du réseau, le PSN, il faut qu'il s'améliore un petit peu, parce que 256 joueurs sur la même partie, ça va être un peu chaud, je pense.
Ah, mais de toute manière, les serveurs, ils ont intérêt à tous augmenter, parce que sinon, ah là, c'est sûr, ça va jamais pouvoir suivre.
En plus,
parce qu'en plus c'est un, en plus c'est un FPS et on sait que le FPS niveau, niveau vitesse et voilà, niveau vitesse et temps de réaction, c'est ce qui est le plus exigeant. Ouais, donc 256 personnes qui font du FPS, voilà.
Ouais, non mais c'est sûr que là il va falloir qu'il s'améliore, quoi. C'est
si on veut pas que ce soit du FPS à la maison de retraite, il va falloir il va falloir booster les serveurs.
Voilà. C'est une vraie guerre, quoi.
Ouais. Exactement.
Ami Counter-Strike, vous nous aurez compris.
Voilà. Donc ouais, l'année du MMO, comme vous l'avez dit, et pas juste RPG, donc, avec beaucoup d'annonces. Et on peut finir avec, avec deux, trois titres vraiment gros, avant de passer à une liste exhaustive de tout ce qui reste, parce qu'on ne va pas tout faire non plus. Alors, je vais citer à peu près deux, trois jeux. Je vais pas commencer par Metroid Other M. Alors là, je suis peut-être le plus à même d'en parler, mais c'est la renaissance de Metroid après, après les épisodes de Metroid Prime en 3 dimensions de, ça y est, j'ai oublié leur nom, de Retro Studio, qui avait vraiment fait quelque chose d'énorme, mais qui cassait un peu avec la 2D qu'on avait avec les premiers Metroid, avec donc une visée à la première, une vue à la première personne, etc. C'était vraiment très sympa. Là, par contre, c'est repris par des Japonais, par la Team Ninja, qui ont déjà fait Ninja Gaiden et tout plein de beat'em all. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ça a l'air assez fluo dans le, dans le, dans l'approche, et surtout ça a l'air de combiner tout ce qui est vue 2D, vue en profondeur, vue 3D et vue à la première personne, et avec un scénario qui ferait la liaison entre un des grands Metroid, donc Super Metroid, et un des Metroid récents qui est Metroid Fusion. Alors je vais pas m'étaler là-dessus, mais on l'attend vraiment en tournant, parce qu'on espère aussi qu'ils vont pas tout chambouler de ce qui a été fait par les Américains de Retro Studio.
Ouais.
Alors, ensuite nous avons sur PS3 du Uncharted 2. Alors là, là j'ai vu
Uncharted.
Des Uncharted 2.
Celui-là, s'ils le mettent en pack, ils vont doubler le nombre de gens qui vont acheter des PS3.
Oui, parce que j'ai vu la vidéo de gameplay sur un niveau quasiment entier, et j'étais vraiment soufflé. C'est-à-dire, c'est pas juste la façon de jouer, d'utiliser le décor, etc. C'est surtout au fait l'ambiance qu'il y a dans le jeu, dans les couleurs, dans le. Enfin, c'est vraiment magnifique.
Ouais, et puis avec un héros qui a une vraie profondeur, dans le sens où il est pas lisse et polissé, mais qui a un peu tendance à jurer quand il se fait violemment tirer dessus, ce qui arrive à
peu près.
Ou quand il est obligé de grimper comme un malade, ce qui arrive à peu près les autres 30 secondes.
Ce qu'il faut voir là-dessus, c'est que Naughty Dog, quand ils ont créé ce titre au départ pour la PS3, donc c'était presque au lancement de la PS3, ils ont pris un gros risque, je pense aussi un gros risque au niveau budgétaire, et ils ont quand même réussi un très très bon jeu, qui est graphiquement très bien réussi. L'histoire, bon, ça reste une histoire d'aventure. La durée de vie, on peut en parler, voilà, parce que bon, c'est vrai, c'est toujours aux alentours de... je crois que ça varie, si on va vite c'est 7 heures, sinon ça peut aller jusqu'à 12 heures maximum.
Oui,
et là c'est vrai qu'on attend ça, et notamment avec le mode multijoueur qui risque de tout défoncer.
Voilà. Ah, mais les vidéos de gameplay du multijoueur, elles sont vraiment impressionnantes, quoi. Ça a l'air de vraiment bien jouer et tout ça, quoi. D'être nerveux. Ben,
puis il y a déjà la bêta qui est en ligne, donc si vous avez le petit code pour pouvoir jouer et télécharger la bêta en ligne, merci de la donner à podradio.fr si vous voulez.
C'est ça.
Il y en a qui recherchent apparemment. Alors, ouais. Je suis en train de regarder si j'en ai d'autres. Oui, alors deux derniers. Un qui a été annoncé très vite fait, qui a été bouffé par autre chose, et un autre qu'on a vu juste avec un artwork. Alors je vais commencer par le premier, qui est Tony Hawk Ride sur 360, avec un nouveau contrôleur qui est en fait une grosse planche avec des boutons, et avec vous mettrez dans votre salon sur votre planche et vous ferez du skate. Pas non plus avec tous les mouvements, parce que sinon ça va être un peu bordélique. Mais bon, ce qui me fait rire par contre, c'est que on le développera après, c'est que Tony Hawk arrive, nous fait son speech sans même de démo, et ensuite une heure après on avait le projet natal avec le gamin qui faisait du skate sans skate. Donc voilà, ça c'est du bon argument de vente, j'ai envie de dire.
Ouais. Bah, ça, faudrait peut-être en parler après, mais c'est vrai que Tony Hawk avec sa planche et tout ça, c'est pas très convaincant. Surtout qu'en plus, ils nous ont montré un petit trailer. Et avec les trailers, on fait un peu ce qu'on veut. Avec la Wii, on nous montrait des trucs extraordinaires avec Red Steel, justement. Et au final, c'était pas top. Donc.
Bah ouais, bon, on verra bien ce que ça va donner. Il y a eu des gens qui ont testé un peu. Bon, la planche reste assez fixe. On fait que la tourner à 180, 360 degrés. Enfin. Voilà, je sais pas si ça sera vraiment très ergonomique et agréable, mais on verra bien.
Là, c'est la réponse de Tony Hawk face à Skate de chez EA, qui marche pas mal et qui commence à faire de l'ombre.
Pour un premier essai, qui était pas mal au niveau simulation de skate.
Parce que voilà,
Skate 2, hein.
J'ai envie de finir sur un truc méchant, nommé Tony Hawk qui a besoin d'argent. Allez, hop, on passe au dernier que je vais balancer. On a eu un seul artwork balancé par...
Miyamoto, non ? Miyamoto ?
Non, Miyamoto n'était pas là cette année, je crois.
Ah non, c'est vrai, bah, c'était le...
Si, il était là, mais juste pour une table ronde, je sais pas quoi, un truc...
Voilà. Oui, c'était pas le grand noir là qui faisait du basket après ?
Non,
c'est pas Miyamoto. Miyamoto n'est pas un grand black.
Non, mais lui, il est petit jaune, mais...
Non, c'était vraiment la conférence, c'était à part.
Allez,
gros,
assiste.
Bon, alors je vais renchaîner. Alors, donc, un artwork qui était présenté exclusivement pendant une table ronde de journalistes avec Monsieur Miyamoto qui était là juste pour ça. Et peut-être aussi pour remonter un peu Nintendo pour sa conférence. Et qui annonce avec un artwork un nouveau Zelda Wii. Qui tirera parti du Wii Motion Plus. Alors, on a un artwork très joli, j'ai envie de dire, assez énigmatique. Et puis voilà, on en saura plus tard s'ils vont faire enfin quelque chose de.
Du jeu est en attente 2 ans.
C'est ça, le jeu est en attente 2 ans pour espérons quelque chose qui aura par rapport à Twilight Princess qui était le premier sur Wii, un cœur, c'est-à-dire que c'était un bon Zelda, mais au niveau contenu, c'était pas non plus vraiment très profond. Donc on verra bien ce que ça va faire. Steve Jobs, tu commences à m'énerver. Donc on verra bien ce que ça va faire. Alors on va juste passer très rapidement sur une liste de jeux qui a été revue, remontrée, quelques trucs un peu plus qui ont été un peu plus descendus. Alors on a, je vais citer rapidement, du Batman Arkham Asylum sur Xbox 360 et PS3, qui s'annonce un très bon jeu de Batman. Il s'annonce vraiment excellent.
Attends, tu peux me reciter le sous-titre, j'ai rien compris.
Batman Arkham Asylum.
L'asile d'Arkham, en fait, où il y a tous l'asile les super méchants de Batman qui sont enfermés
tous. Ce soir, j'ai vraiment beaucoup de mal avec l'anglais, j'en suis vraiment
confus. Non, mais sans même parler de ça, moi, quand j'avais vu le titre sur les sites de jeux vidéo, je comprenais rien déjà, donc...
Ah, mais en même temps, si c'est parce que Asylum, ça veut dire asile, bon... ensuite, on a eu quelqu'un, donc encore Ubisoft, qui faisait une grosse annonce et du gros show pour les lapins crétins et la grosse aventure. Alors là, c'est encore un lapin crétin, ils vont sur la lune, ça a l'air assez délirant sur Wii, bon, voilà, encore
et
un lapin crétin.
C'est une aventure, c'est une histoire, c'est plus un mini-jeu aussi.
Ouais, c'est une histoire. Voilà.
Les mecs de chez Lyon, Ubisoft, donc de chez Lyon qui crée le jeu, ont décidé d'innover, je dirais.
Et de mettre un espèce de scénario derrière les lapins.
Voilà.
Exactement.
Bah heureusement, parce que le concept, il s'est quand même essoufflé assez rapidement.
Ouais. Voilà. C'était rapidement répétitif. Alors ensuite, on aurait du Modern Warfare 2. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi la licence, il a abandonné la licence Call of Duty. Infinity Ward reprend le développement tout seul. Et on a un Modern Warfare 2 tout seul et qui a l'air encore plus impressionnant que le premier, toujours aussi politiquement incorrect, mais toujours aussi impressionnant dans sa façon d'avoir un FPS à grands effets, vraiment prenant, stressant. Enfin, ça a l'air très, très impressionnant. On a ensuite aussi du Resident Evil Darkside Chronicles, donc encore du shooter sur Wii, mais qui a l'air vraiment amélioré par son ambiance. Du Left 4 Dead 2, on reste dans les zombies. Alors, Left 4 Dead 2 qui a été accueilli par une très grande polémique, c'est-à-dire qu'il n'apporte quasiment rien. Même dans les vidéos de gameplay, je n'ai vu personne utiliser la nouveauté de ce jeu qui est, par rapport au premier, de pouvoir utiliser des objets de corps à corps. Je n'ai pas vu une seule vidéo de gameplay.
Soit disant que tu peux à ce coup-ci customiser ton personnage, mais bon, enfin, tout le monde voit ça dans la série. Sympa la donne.
Mais c'est un peu ce que fait le Valve à chaque fois. Enfin, il y a aussi eu la polémique de laisser les joueurs de Left 4 Dead 1 un an ou deux ans après la sortie du jeu, ce qui est quand même une ignominie.
Tout à fait.
Puisque le jeu est beaucoup joué en ligne seulement sur Xbox 360 et PC, et le laisser tomber comme ça, enfin, ça en a fait rager plus d'un.
Et en plus, quelqu'un qui s'est trahi tout à l'heure, puisqu'il avait dit la nouveauté, et c'est vrai que ça apporte vraiment pas grand chose d'intéressant.
Ouais, c'est ça. Ensuite, je vais les citer rapidement parce que là on commence un peu à déborder vraiment trop sur le format long au niveau du temps. On a du Bayonetta, donc de l'œuvre originale en beat 'em all. On a du retour de Wolfenstein, donc du gros FPS où on tire sur des nazis zombies. Incroyable.
On a le retour Hitler à la fin.
C'est ça, on a du retour
non,
de.
Non, ils ont laissé tomber le mec à Hitler ce coup-ci.
Ah zut.
Oh, zut.
On a du retour de No More Heroes sur Wii avec No More Heroes 2 qui a l'air quand même beaucoup plus abouti. On verra bien s'il utilise le Wii Motion Plus. On a du Rock Band édition Beatles qui a été montré de long en large au début de la conférence Microsoft.
On mais a... ils ont quand même invité Paul McCartney.
Paul McCartney.
Oui, non, mais ça c'était le retour des célébrités.
Voilà, c'était vraiment le grand spectacle hein, cette année.
C'est ça.
Chez Microsoft,
et puis non, puis c'est là où c'était, ça faisait un peu mal au cœur, c'est que tu sentais les gars qui disaient bon, bah on est là et maintenant oui. On fait. Bonjour,
ils savaient pas quoi
allez,
faire.
Au revoir.
Fais quoi
c'est ça, ouais.
Parce que bon, c'est bon, on se casse.
Rejouer leurs morceaux, ça m'étonnerait que ça aurait vraiment été très excitant. En plus, ils étaient que deux alors sur les quatre.
Ouais, il en manque deux.
C'est ça, ouais, il en manque
deux.
Les
autres n'étaient pas là.
Ils n'étaient pas là. On a le retour de No More Heroes, donc ça j'avais déjà dit, oui. On a Dead Rising 2 qui revient sur PS3 360, je crois. Donc là, c'est du gros encore, du gros je tape sur du zombie, du gros délire. On a du Crysis 2 avec un nouveau moteur, encore une fois. On a Halo qui revient sur le devant de la scène avec deux épisodes, une suite de Halo 4 avec Halo Reach et un Halo 3 ODST qui serait un Halo en jeu en ligne. On a du Tekken 6, pour du snowboard on a le retour de Shaun White avec Shaun White Snowboarding World Stage. On a du FPS autant du western avec Call of Duty RS 2 qui a l'air de reprendre un peu la licence et du Lost Planet 2 avec un joli RPG comme on les aime. Ouf, donc voilà, c'était vraiment beaucoup de jeux. Et donc maintenant, on va peut-être arrêter avec les jeux et on va passer aux conférences, aux annonces. Alors, on va passer vite sur les développeurs parce que vous avez envie de parler des constructeurs. Alors, on va dire que quand même, avant c'était EA Sports qui avait plein de titres, plein de trucs à vendre. Là, ils avaient quasiment rien à part Need for Speed.
Et leur superbe
Grand Chelem Tennis. C'est ça, Grand Chelem Tennis qu'ils ont quand même balancé Grand Chelem Tennis avec le Wii Motion Plus, mais qui n'a pas l'air vraiment d'exploiter vraiment à fond le Wii Motion Plus. Enfin, ça, on reverra ça plus tard si on a envie. Mais par contre, le grand présent c'était quand même Ubisoft hein, parce qu'il a vraiment dégainé toutes ses cartes. Il avait vraiment beaucoup de choses et c'était impressionnant. Je pense que là les rôles sont un peu en train de s'inverser, j'ai envie de dire, parce qu'Ubisoft avant c'était on sort 2-3 jeux, on fait des trucs pas convaincants, mais là ils ont mis de l'argent.
Depuis
qu'ils ont fait Assassin's Creed, ils ont beaucoup d'idées, j'ai l'impression. Voilà. Et puis donc maintenant, on va leur passer aux trois conférences. Vas-y. Par contre.
Par contre, chez Ubisoft, juste pour dire, on n'a pas eu de Tom Clancy's.
Mais
à part Splinter Cell, il n'y a rien eu du tout. Pourtant, ils ont eu la licence, ils ont tout, mais on n'a rien eu du tout.
Ouais, bon, on verra bien s'ils leur sortent. Peut-être qu'en fait ils ont trop de trucs à faire en fait, donc ils ont peut-être laissé tomber 2-3 choses. Voilà. Alors, on va commencer par la conférence Sony. Ah, il y en a qui sautent au plafond, la conférence Sony. Alors, les plus grosses annonces de la conférence Sony, enfin les annonces constructeurs de la conférence Sony, c'était donc la nouvelle PSP Go. Donc une PSP plus légère, avec des formats de jeu et de contenu complètement dématérialisés, donc plus du MD, enfin. Une PSP à clapet, un écran légèrement plus petit, mais bon, c'est pas vraiment trop grave. Et donc un clapet avec les deux sticks analogiques en bas, comme une sorte de... Je sais quel Nokia déjà qui a un clapet coulissant comme ça, je ne sais plus.
Je saurais pas te dire.
Voilà, donc en fait, vous imaginez une PSP, quand vous l'avez pliée, vous avez juste un écran, et quand vous faites coulisser le clapet, vous avez les contrôles et tout ce qui s'ensuit.
Alors, donc, si voilà, je peux me permettre,
vas-y.
Je vais faire une remarque complètement déstructurée. Donc, pour les petits enfants, fermez vos petites oreilles. Mais ce que je veux dire pour la PSP Go, c'est de la merde.
Ah, bah, je voulais le dire justement.
Bah, ça apporte pas grand chose à part qu'ils abandonnent enfin l'UMD. On verra bien s'ils en vendent des palettes ou non. Voilà.
Oui,
quoi.
Mais.
Oui, en disant que la grosse annonce, c'est plus le fait qu'ils vont enfin sortir des jeux sur PSP que la PSP Go elle-même. Quoi.
Voilà.
Bah ouais,
c'est ça. Bien. Bah voilà, en fait, moi j'ai envie de dire.
Ils ont annoncé une blinde de jeux pour la PSP. Quoi.
Ouais, ils ont annoncé quand même beaucoup de jeux.
Mais il y a un analyste qui a dit dernièrement que c'était un traquenard géant, quoi, la PSP Go.
Mmh. Surtout parce que je suis pas sûr que les gens soient encore prêts aux jeux dématérialisés, quoi.
Oh, ça, ça reste à prouver.
Non, puis c'est surtout qu'en plus, même, on s'est dit, ouais, ils abandonnent les pièces mécaniques, ça va augmenter l'autonomie. Eh bien, non.
De 3 à 6 heures d'autonomie. Et selon, il y avait un analyste, Michael Patcher, qui disait que c'était trop cher, quoi, parce qu'ils enlèvent justement l'UMD. Donc, normalement, ça doit leur coûter beaucoup moins cher. Bon, ils rajoutent 16 gigas, mais aujourd'hui, le prix du giga, je suis désolé, ça coûte rien du tout. Et vendent le truc 250$, alors que la PSP 3000, la dernière PSP en date, coûte combien ? 169$, je vous donne le prix en dollars, est vachement plus rentable. Enfin, le truc de la PSP Go, c'est relancer le line-up de la PSP parce que c'est en train de se casser la tronche. Et Sony veut réagir sur cette portable. Et en même temps, je sais plus ce que je voulais dire. Ah. Oui, ici, bloquer le piratage, qui est un fléau de la PSP.
Je pense que c'est la principale initiative, c'est qu'on en a marre de se faire pirater nos jeux, on va tenter un truc.
Le principal fléau de la PSP, c'est surtout qu'elle ne se vend pas.
Parce qu'il n'y a aucun jeu.
Il n'y a pas assez de jeux.
Ouais, donc la deuxième annonce de on va enfin vous sortir des jeux pour la PSP.
Aucun jeu.
C'est
après...
ça, la PSP, c'est vrai, hein. on vous montre qu'on a des jeux. D'ailleurs, ça se voit parce qu'ils sortent un Gran Turismo enfin. Alors
oui,
que quand
parce
même,
qu'il était censé.
Il était censé sortir line-up.
En même temps que la console, quoi.
Voilà,
en même temps que la première PSP.
Bah, c'est ce qu'ils avaient dit au début, c'était que pour vendre de la PSP autrement qu'avec des jeux, c'était des films, mais bon, en UMD, voilà, qu'ils ont enfin abandonné parce que c'était pas
les
vraiment
UMD
très pratique. Voilà, c'est
les
ça,
musique,
ça s'est jamais vendu parce que c'était encore un format propriétaire de Sony et que ça s'est jamais vendu. Alors là, voilà, j'ai plus envie de dire aussi que la PSP Go, c'est un peu la réponse à l'iPhone et à la DSi. C'est-à-dire qu'on a une console. Bah, c'est-à-dire que maintenant, ça va être vraiment le combat à 3 avec un catalogue dématérialisé. Et des achats en ligne qu'on peut faire directement via la console. Et un modèle économique qui se rapproche de l'App Store.
Par contre, le PlayStation Store ne sera pas disponible sur Mac.
Ah, c'est gentil pour les Mac users.
Oui, il faut s'acheter une PS3 si vous utilisez un Mac.
D'accord, et bah dis donc. Oh, c'est ça, c'est les. Voilà, je pense que Bootcamp est la solution la plus économique.
Oui,
voilà.
Faut acheter une licence Windows par contre, faut pas
c'est
le
ça. C'est ça. Bah, si vous êtes étudiant, vous en avez des licences Windows. Allez. Et on a aussi eu alors un prototype. Alors là, je pense que c'était plus du prototype pas prêt avec un SDK, un kit de développement pour les développeurs qui va être vraiment à la bourre, un truc trop compliqué qui est le motion controller de Sony. Alors, c'est très sympa, mais si j'ai envie de dire, c'est encore une Wiimote, quoi. Et une Wiimote encore plus compliquée parce qu'on a vu qu'ils faisaient ça avec des boules de couleurs comme ils avaient fait avec l'iToy. Il y a un bouton dessus, mais
ils l'ont encore fait à l'arrache une semaine avant ça.
Non,
moi, je pense que c'est ça.
Bah, c'est au niveau technique, c'est très sympa, c'est assez précis, etc. Mais ça va rien apporter, et surtout, c'est-à-dire que les premiers jeux qui vont utiliser ça, ça va être dans un an, voire deux ans, même voire plus de deux ans. D'ici là, ça aura d'autres choses auront changé, et en plus. Et l'approche du joueur qui est sur la Wiimote, qui est de pouvoir prendre le truc et de faire une partie de tennis en bougeant juste les bras, déjà qui complique ça, alors ça va jamais se vendre, quoi.
Et puis c'est surtout que je sais pas si ça va plaire aux possesseurs de PS3 qui sont essentiellement des gamers et hardcore gamers, ou dans le sens où moi par exemple, si entre autres j'ai pris la PS3, c'est que je veux pas faire le con devant ma télé comme avec une Wiimote, quoi.
Bah, on va dire qu'après c'est un faux débat parce qu'il y a des hardcore gamers qui peuvent très bien s'habituer à des autres façons de jouer. Après, j'ai toujours dit que c'était comment les développeurs de jeux utilisaient les contrôleurs, mais voilà. Vas-y, oui.
Ça, moi je pense qu'ils auraient dû le faire un an après la sortie de la PS3 Maxi, et comme ça, ça aurait ramené beaucoup de monde derrière la PS3.
Et je pense aussi.
Maintenant, c'est un peu dépassé, sachant que la Wii, elle s'est implantée partout. Et tous ceux qui étaient intéressés par un jeu différent, et ben, ils ont sauté sur la Wii. Mmh. En plus, avec son bas prix et tout ça, quoi. Donc,
non, je pense que ouais, c'est ça. Ils ont fait ça vraiment trop tard, donc ça va pas vraiment se vendre.
Et puis, sachant qu'en face, ils ont Natal.
Ouais, alors ça, on va en parler après, mais on va en parler en dernier.
C'est, c'est la réponse.
Il n'y a aucun rapport avec Raphaël Natal. Merci.
Magnifique, bien, formidable.
Disons, oui, c'est la réponse économique de Sony envers la Wii. Donc, c'est comment se faire masse de thunes en disant que la Wii c'est trop naze et en mettant la même chose. C'est un peu maladroit de leur part, mais ils ont déjà envoyé les kits de développement. Et il y a Peter Moore, donc non pas Peter Moore, ça c'est EA.
Roger Moore,
ça c'est 007. Phil Harrison, je crois que c'est lui, oui.
Oui.
Président de Microsoft,
de
Sony Entertainment America, qui a dit que tous les jeux avec un petit patch seraient compatibles avec le motion controller. Donc c'est une réponse directe au projet Natal et à la Wiimote. Et voilà.
Moi franchement, ça m'étonnerait qu'ils sortent et qu'ils concrétisent complètement.
Ça va faire comme l'iToy. Donc ça va être développé en interne par Sony et personne va reprendre le truc.
Ouais, c'est ça. En fait, ils auraient dû faire
sur le principe de l'iToy, il y a aussi un bon truc qui est annoncé, qui a l'air super sympa, c'est le iPad aussi.
Oui, l'iPad a l'air pas mal, mais il faudra ça s'appelle plus une iToy maintenant, je crois bien, mais il faudra la caméra Sony pour faire marcher les motion controllers, je crois bien, non?
Pour pouvoir voir les couleurs, je crois, oui.
Enfin, oui, il y avait un truc comme ça, oui.
Ouais,
ça,
ça
a l'air bien.
Bien compliqué, oui. Alors, donc voilà, avec ça, on a eu l'iPad, et comme tu le disais, Angelus.
Là où c'était sympa, c'était avec la caméra où, par exemple, on avait vu la vidéo, il y avait un enfant, puisque bon, ça, on voit bien que ça vise pas les grands dadés, où l'enfant il dessinait un cube, enfin, pas un cube, un carré, la caméra reconnaissait le carré et le faisait en un cube.
Voilà, c'est clairement de la réalité augmentée pour ceux qui connaissent un peu le principe, en fait, quoi.
Voilà.
Si tu peux même construire un avion pour ta bestiole, il monte dessus et tout. Avec la petite différence, c'est qu'en fait, d'après ce que j'ai compris, il faut d'abord construire les pièces une à une de ton avion. En fait, en gros, tu fais les ailes, le corps, l'hélice, machin. Voilà. Et c'est après la console qui se charge, une fois qu'elle a mémorisé les pièces, de les assembler pour faire l'avion de la bestiole. Mais ça reste quand même très fort, quoi.
Voilà, ça pourrait être. Non, mais c'est un concept intéressant. Après, j'ai envie de dire, par rapport au projet Natal qu'on va développer, ça va être encore assez, complexe.
Ça va être comme la 6 axis là. Ils vont sortir ça, ils sortent un peu ça pour dire qu'on fait la même chose que la Wii, et au final, on va pas l'utiliser, quoi. Le 6 axis.
La 6 axis est utilisé, mais très peu.
Franchement, c'est encore quelque chose pour faire un peu parade à la Wii.
Le seul jeu qui utilise correctement la 6 axis, c'est Flo.
Il y avait l'air au départ qui faisait ça, mais l'air de rien, ça s'est cassé la gueule comme jeu. Magnifique. c'était un jeu où on dirigeait un dragon qu'avec le 6 axis, et c'était très mal fait.
Ah oui,
ok. Alors, on va passer à une autre conférence. On va faire Microsoft en dernier. On va passer à Nintendo. Alors là, j'ai quelques remarques sur la conférence de Nintendo. Alors vraiment, là, Nintendo vend bien, a trouvé son public de joueurs qui n'avait jamais été touché par le jeu, donc a réussi à faire jouer tout un cœur de casual gamer, comme on les appelle. Et vraiment, là, c'était Nintendo arrive en terrain conquis. Je me souviens avoir regardé la conférence, et déjà, au départ, j'étais allé faire autre chose parce que c'est comment elle s'appelle, Camille Dunaway, je crois, qui a vraiment une voix soporifique.
Sarah Palin t'as l'impression que c'est Super Nanny qui te présente.
C'était Sarah Palin.
C'est vraiment soporifique.
Et c'était qui d'autre qu'on avait dit? Ségolène Royal et Sarah Palin.
Ah ouais, non, mais sérieux, t'as l'impression que c'est Super Nanny qui te vend des jeux vidéo, forcément, ça fait
ouais, c'est, voilà, c'est vraiment très chiant, sans être vulgaire. Et aussi, on a Reggie Fils-Aimé, donc directeur de Nintendo of America, qui arrive devant ses écrans. D'ailleurs, c'est la petite scène de Nintendo. Ils n'ont pas vraiment mis beaucoup de moyens dans la scène, alors que Microsoft et Sony ont balancé un truc absolument énorme.
Surtout Microsoft.
ils arrivent sur leur petite scène et ils arrivent. C'est ça, ils arrivent en pays conquis sans dire bonjour, bonjour. Enfin, même pas. Non, mais justement, même pas bonjour. J'ai le réflexe de dire bonjour, mais ils arrivent. Nintendo a toujours été leader dans je sais plus quoi, voilà. Et puis, pouf, avec son air de gros méchant. Et il est arrivé. Enfin, oui.
Mais ce qui est marrant, enfin, ce qui ressortait d'ailleurs de la conférence, ce qu'on s'était dit à première vue, on n'est pas les seuls, c'est que d'habitude, quand t'as les annonces et tout, même les keynotes Apple qu'on a l'habitude de suivre, magnifique, t'as toujours les gens qui applaudissent et qui sont fans. C'est l'autre qui fait oui, bonjour, j'ai acheté un nouveau stylo, et là tout le monde fait ouais, et tout, ouais. Genre, tout le monde s'en fout. Et là, c'était, ils avaient beau annoncer des trucs et t'avais rien dans la salle, les gens ils disaient ouais.
Si, t'avais trouvé un moment qui a fait ouais, ouais, mais.
Bah c'est ça, il y a un type à un moment qui applaudit, qu'on a fait ah tiens, si finalement il y a des micros dans la salle.
ils ont déconné cette année de toute façon, Nintendo. Bon, moins que l'année dernière, c'est-à-dire que l'année dernière, bon, avec Wii Music, là, tout le monde mais s'emmerdait complètement. Bon, c'est un peu mieux que l'année passée, mais franchement, avec leur Wii Vitality Sensor là, qui permet de voir votre pulsation du cœur comme dans les vélos d'appartement, des
comme
trucs
à
comme
la
ça.
Méthode Koué.
Voilà, c'est franchement, mais on va pas se faire une méthode Koei chez nous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est encore pas du concret, quoi. C'est un peu comme le Sony avec leur petite Wiimote entre guillemets like.
Ouais, voilà. Bah, c'est encore un concept éphémère. Après, voilà, il y a eu quelques annonces, mais pas une licence nouvelle. Alors, on en a un peu marre, même
voilà,
si. J'attends hein, ce qu'ils ont annoncé. J'attends du Golden Sun, j'attends du Metroid, du Mario, du Zelda. Enfin, ils vont être sympathiques comme jeu. Mais vraiment, la seule chose, c'est que c'est pas nouveau, quoi. Il y a des studios qui ont du potentiel et il y a rien du tout. Voilà, on a eu ça, une mauvaise ambiance. Même si Wii Sports Resort a l'air quand même sympa, mais bon.
Sans faire mon pro Sony ou n'importe quoi. Ouais. Moi, pas du tout. J'ai vraiment l'impression que chez Nintendo, à la conf, ils se sont fait bon, on se fait masse de pognon avec la Wii, donc on annonce des suites comme ça, on se fait encore plus de pognon et on tente rien d'autre.
Bah, c'est sûr, ils ont pas vraiment tenté de. Comme ils savent que leur public.
Il y a un petit côté sur la licence. Hein.
Ouais, c'est clair. Comme ils savent que leur public, comme c'est des casuals, ils vont pas regarder le 3, ils s'en foutent complètement leur public. Donc ouais. Eux, ils s'occupent de faire des petites suites, de mettre des pubs dans les magasins. Les journalistes qu'ils aiment ou pas la Wii, ils s'en foutent puisqu'ils auront quand même toujours du succès. En tout cas auprès des casuals, donc bon. Leurs chiffres, ils sont en constante augmentation, etc. Donc ils s'en balancent un peu, je pense.
Ouais.
Voilà.
C'est vraiment dommage parce qu'ils ont du potentiel. Donc
enfin,
voilà ce que je disais.
On a l'impression qu'ils sont en terrain conquis. Après, on va pas mettre
oui, je pense
sur
que
Nintendo.
Je pense qu'ils ont quand même ils se sont dit quand même qu'il fallait se pousser un peu. Alors on a eu le Wii Motion Plus qui a été rabâché encore une fois, qui a été montré un peu
c'est
plus
un
et un peu mieux que l'an dernier. Wii Sport Resort qui sort, je crois début juillet.
Oui.
C'est ça. Wii Sport Resort, je pense que c'est lui qui va le mieux utiliser la Wii Motion Plus pour le moment, hein, très franchement, avec Red Steel qui va arriver, Red Steel 2. Parce que voilà, comme je le disais, Grand Chelem Tennis a l'air de l'utiliser, mais pas vraiment incroyablement.
Bizarrement, et excuse-moi de te couper, mais ils ont pas fait je crois qu'ils ont fait une rétrospective des jeux Nintendo qui avaient bien marché, et ils ont pas du tout parlé de Mad World.
Non.
Ouais, bah, il a pas bien marché Mad World. Hein.
Oui, mais j'ai l'impression que c'est un peu un excellent jeu.
Oui, c'est un excellent jeu,
mais
c'est pas du tout le public
de la Wii, c'est aussi pour ça qu'il a pas marché.
Mais non, mais c'est que par rapport aux autres qui avaient qui présentaient des jeux qui n'étaient pas forcément de leur studio, Nintendo n'était que Nintendo, quoi.
Oui, enfin bon, ils nous ont présenté que des jeux aseptisés, là, j'avais l'impression, que des trucs édulcorés, quoi.
Et déjà oublié, quoi.
Nintendo. Il y a 5 ans, ils avaient réussi avec. Vous savez, ils disaient que c'était la Nintendo Révolution et tout ça. Ils avaient réussi quand même à capter pas mal de hardcore gamers. Et puis, un ou deux ans après la Wii, tout le monde se rend compte que c'est vraiment que du patati patata, quoi. C'est pas très important, intéressant.
Oui, effectivement. De toute façon, ils ont toujours. Steve Jobs avait quelque chose à dire.
Non, rien.
Non, mais voilà, ils ont toujours des éditeurs qui les suivent, mais ils ont l'air de plus en plus les abandonner, donc c'est pas très sympa.
On a l'impression qu'ils font tout dans leur coin, quoi.
C'est ça, voilà.
Aussi.
Et donc,
tout
dans leur
quand
coin.
Quand on regarde les top 10 des jeux les plus vendus, ça va être Mario Galaxy, ensuite ça va être Mario Kart, après ça va être Zelda, enfin Super Mario Bros. C'est toujours
des jeux Nintendo pour des produits Nintendo.
Voilà, c'est bête.
Et qui en plus avant il y avait un catalogue, maintenant ça se réduit un peu à vue d'œil. Alors même s'ils ont aussi annoncé Wi-Fi de plus, une évolution de Wi-Fi.
Alexandra Lederman.
Non. Wi-Fi de plus, et donc comme disait Lamberto, le Vitality Sensor. On verra bien à quoi ça sert, pour l'instant, à absolument rien. Alors on va enchaîner sur la dernière conférence constructeur qui est Microsoft. Je pense que c'est celle qui a fait le plus parler.
Oui, c'était la meilleure.
Voilà. Donc grosse annonce de jeu, grosse ambiance, etc.
Énormément, alors on a eu
énormément de célébrités. Donc comme on l'avait dit, on a eu Tony Hawk, on a eu Paul McCartney et Ringo Starr, on a eu Peter Molineux, on a fait plein d'autres.
Et les fans de George Harrison et de John Lennon aussi.
Effectivement.
Spielberg.
On a eu Spielberg, Hideo Kojima qui est venu faire la promo.
Il y a énormément de monde qui sont venus. Enfin,
c'est ça, Microsoft.
Ils avaient un banquier qui est chez Microsoft.
C'est ça. Je pense que la division jeu de chez Microsoft cette année s'est vue. A vu ses crédits.
Bill Gates.
Oui. c'est même plus lui qui gère, je crois.
Oui. Et bon, c'est Steve Ballmer maintenant qui gère. Tout du moins, il doit bien influencer.
Oui, je pense. Alors, ce qu'on a eu, je vais commencer par l'amélioration du Xbox Live. Donc voilà, je pense que Sony et Microsoft l'ont fait tous les deux. On ajoute des trucs sur le Xbox Live. Mais la grosse annonce, c'était le projet Natal. Alors, ils sont arrivés avec une sorte de caméra... comment dire ?
Révolutionnaire.
Une caméra qui reconnaît la voix, qui reconnaît les visages. Qui reconnaît les mouvements de joueurs qui sont scannés en fait dans une grille en 3D, enfin une grille en espace, c'est-à-dire que la caméra va représenter un joueur, va le capter, va le représenter dans un espace.
Je reprends parce qu'en fait il y a trois caméras. Il y a une caméra infrarouge et deux caméras basiques.
Oui,
dans une seule base.
Boîtier.
Dans un seul boîtier. Et ça permet de voir le joueur très précisément dans l'espace. Donc c'est une technologie avancée quand même.
Moi j'ai envie de dire, on a là une caméra molinesque.
Voilà.
Parce que déjà il y a eu Peter Molineux, puis si vous connaissez bien Peter Molineux, c'est un utopiste fini. Hein, pour lui, enfin, c'est génial. Alors, d'ailleurs, hein, quand il le dit. Mais pour lui, comment est-ce qu'elle s'appelle ?
Le projet Natal.
Le projet Natal est exceptionnel, et d'après les retours, il l'est.
Donc c'est
vraiment une caméra molinesque.
Voilà.
Bon, on verra bien, mais pour l'instant c'est vrai que ça a l'air assez alléchant. On a vu la vidéo de démo. Oui, vas-y Lamberto.
Tous les journalistes en behind closed doors, là, c'est-à-dire que c'est pas devant le public, mais c'est en privé, ils ont essayé la technologie donc du Natal, et c'est vraiment, il paraît que ça marche super super bien, et ça capte tous les mouvements. Oui, et ça sera sûrement, je pense, quelque chose de un retour par rapport à la Wii. Ça sera vraiment intéressant de voir comment ça va se bidouiller.
Exactement. Bah alors là, j'ai envie de dire, Ouais, vas-y.
Oui, et puis c'est quand même assez quelque chose d'assez exceptionnel. Les journalistes, par exemple, il y a ceux de LCI qui ont testé, et ils ont testé sur Burnout Paradise, et ils disaient pour accélérer on met le pied gauche en avant, pour freiner on enlève le pied ou c'était le pied droit, pour tourner on fait comme si on avait un vrai volant, et ce qu'on voyait sur la vidéo de démonstration, la vidéo plutôt publicitaire, à ce qui paraît c'est vraiment vrai quoi.
Voilà, après c'est vrai qu'on sentait qu'il y avait un petit jeu d'acteur, mais ce qu'on a vu dans la vidéo publicitaire, c'est toutes les applications qu'ils ont pour l'instant imaginées. Donc on avait du jeu de combat, c'est la première chose qui nous est présentée, donc le concept c'est que notre corps est le contrôleur.
Et le contrôleur.
La représentation de notre corps captée par les caméras rentre dans l'écran finalement. Et donc on bouge dans notre salon pour pouvoir interagir avec le jeu. Et ça, donc, comme tu l'as dit, dans l'espace. Et donc on a vu une démonstration de jeu de voiture, plutôt jeu d'aventure. Un peu à la Itoy avec un enfant qui se prenait pour une sorte de Godzilla. Mais on a eu aussi toutes les applications par rapport à l'interface de la Xbox, c'est-à-dire pouvoir utiliser l'interface avec les mains, avec la voix. Et donc j'imagine par exemple pour le contrôle parental pouvoir bloquer le contrôle parental avec la voix, donc ce qui est beaucoup plus la voix ou même le visage. Donc ce qui sera beaucoup plus efficace qu'un simple code. Après, ils ont beaucoup de bonnes idées. À voir si ça sera utilisé, parce que pour l'instant, la démonstration qui avait été faite sur scène et donc, comme disait Lamberto, en behind closed doors, c'était du jeu de casse-briques en profondeur, avec nous comme contrôleur, enfin notre corps pour envoyer les balles, et Burnout pour les jeux de voiture.
Ouais, mais sachant aussi qu'il faut voir aussi comment ça peut marcher dans des conditions pas optimum, c'est-à-dire des conditions de tous les jours.
Bah, j'avais vu que
personnes dans le salon, le chat qui passe, la lumière qui varie en fonction du soleil. Et
ils en ont parlé justement, les journalistes, et ils ont dit que c'était vraiment hallucinant, puisque derrière il n'y avait pas de fond uni, qu'il y avait tous les journalistes qui prenaient des photos, etc.
Ils avaient même joué dans le noir.
Aucun problème, Ils avaient même fait changer le fond pendant qu'ils jouaient, et il n'y avait vraiment eu aucun problème. L'optimisation a l'air vraiment énorme, quoi.
Alors, ils avaient joué dans le noir, il y en avait qui étaient passés devant, enfin, ils ont vraiment fait tous les trucs qu'il ne faut pas faire, normalement, et parce qu'il y a la détection de mouvement, parce qu'il y a les caméras infrarouges, parce qu'il y a la reconnaissance faciale, enfin, une fois que c'est enregistré, la tête d'une personne, ça ne va pas se configurer sur la tête de l'autre personne. Le truc fait que ça ne bouge pas et que tout reste assez fluide.
Voilà, il faut quand même des fois, si ça bloque un peu, refaire une petite recalibration. Mais en fait, apparemment, la caméra reconnaît un corps, prend quelques points sur le corps et en fait se bloque dessus pour pouvoir avoir un joueur, deux joueurs, puis trois. Enfin, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors après, on se pose la question des jeux parce que je m'imagine mal faire un FPS en me cachant derrière mon canapé, hein, très franchement. Attention, chérie, il y a les invités qui arrivent. Mais non, je peux pas, je balance une grenade. Enfin, ça sera pas possible.
Tu balances une grenade cachée derrière ton canapé.
Ça sera pas vraiment possible, je pense aussi, mais ouais.
Bah, disons, à part moi, je vois bien du rail shooting. Donc, si vous connaissez, c'est le principe de Time Crisis. Donc, on tire. Et on n'avance pas, c'est le jeu qui va avancer au fur et à mesure, voilà, qu'on nettoie les zones.
Bah, ça, c'est une question d'application, mais je pense que on pourrait garder quelques concepts qui existent déjà aujourd'hui avec des manettes, mais il y aura vraiment un renouveau des styles de jeu. Il va y avoir d'autres choses qui vont être inventées si ça fonctionne. Très clairement. D'ailleurs, comme disait Steve Jobs, Molineux est arrivé, et Molineux a encore présenté un super nouveau projet qui va tout exploser, et que le Natal c'est l'avenir, et que c'est vraiment incroyable. Je reprends ces mots. C'est le projet, comment il l'appelait, Milo. Donc en fait, ils avaient développé une sorte d'intelligence artificielle avancée. Enfin, c'est pas vraiment une intelligence artificielle, c'est toujours une suite de script, mais qui utilisait cette caméra, enfin qui utilisait ce projet Natal. En fait, on avait un garçon dans l'écran, qui vivait dans l'écran, et on pouvait interagir avec lui de plein de façons différentes. Alors, je vous laisse raconter un peu si vous voulez.
Le concept, c'est de, par exemple, on voit, il y a une sorte de petite interaction, on prend un papier, on le donne devant la caméra, le petit avatar que vous avez créé peut le prendre, etc. Mais ça reste quand même du côté gadget un peu, c'est à mon avis c'est ça qui passera dans les pubs. Ça fait penser un peu à vraiment quelque chose de l'avatar devient humain, enfin, c'est un petit peu c'est plus une démo technique comme Flower que vraiment un concept que tout le monde utilisera, je pense. Voilà.
Alors moi, ce qui fait un peu peur quand même dans ce projet Molineux, c'est le fait d'avoir une intelligence artificielle comme ça qui vit, enfin qui il vit plus ou moins à côté. Enfin, c'est un concept très particulier quand même, c'est-à-dire qu'on a maintenant des amis virtuels, enfin vraiment.
Ouais. En plus de Second Life.
C'est ça.
Oui, voilà, c'est ça, ça représente. C'était un peu ça que je voulais dire tout à l'heure.
Ouais.
C'est un peu étrange. Hein.
Donc, je crois que Steve Jobs avait un truc à dire sur ce projet.
Avec le projet Milo.
Natal ou oui, Milo, t'avais quelque chose à dire sur le Milo?
Non, pas forcément. Moi, ce que j'avais trouvé pas mal du tout, c'était aussi la détection d'émotions, entre parenthèses, dans la
avec
détection
du personnage,
sur le visage. Voilà, sur le visage de la personne, où si la caméra reconnaît qu'on a les sourcils français, ils vont faire, pas français, ils vont faire, enfin, il y a Milo qui va faire, si tu nous vois, monosourcil. Ils vont faire t'as l'air énervé, qu'est-ce qui se passe en ce moment,
ça va bien, c'est ils ont essayé de tout incorporer. La seule chose, c'est que j'ai envie de dire, si on prend, je sais pas, Dinara Safina, pour ceux qui la connaissent, Tennis Woman, elle va tout le temps avoir l'air énervée, hein.
Roi-sur-Ken, si tu nous regardes.
Non mais vraiment, c'est vrai que ça va pas être le cas pour tout le monde, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus une démo technique, même si Peter Molyneux, dans son grand délire, a vraiment envie d'en faire quelque chose.
Oui, dans son délire utopique, comme d'habitude.
Voilà, c'est ça.
C'est ce que je disais au départ. Hein, c'est,
mais et là, je vais faire un mélange de fable et de avec Natal. Voilà.
Non, bah alors,
vous aurez des gros pieds. Il faudra porter ça. Du 45 cette fois-ci.
On a encore 2-3 idées, mais je vais juste dire au revoir à Lamberto qui doit y aller malheureusement. Alors Lamberto, oui, bonsoir, merci d'avoir...
Et bonne nuit, tu vas te coucher à cette heure-ci.
Ah. Bien sûr, il est 19h41 et il faut que j'y aille.
Voilà, bah, c'est merci ça quand on est en 6ème.
Merci à toi, en tout cas, merci à toi.
D'être sympa. Voilà. Merci. Allez, au revoir.
Allez.
Merci.
Bon, salut. Donc, alors oui, je disais, on avait encore quelques idées qu'on pouvait avoir. Donc, c'est vrai qu'on pourrait imaginer un fable où on discute directement avec les gens, etc. Mais là, c'est vraiment, je pense, la naissance de nouveaux genres qui va vraiment arriver. Parce que...
Est-ce qu'on pourra vraiment tout faire dans Fable ? Parce qu'il y a certains trucs dans Fable.
Non, mais voilà, je pense que c'est la démo technique. On a eu tout ce qu'on pouvait faire avec Milo et Microsoft qui avaient fait leur démo. Est-ce que les éditeurs vont suivre ? Comment ils vont le vendre ? Apparemment, ils vont pas le vendre tout seuls. Ils vont faire soit des packs avec des jeux, soit les prochaines Xbox pour pas avoir un prix élevé.
Voilà. Et puis même
ils veulent absorber le prix de la caméra dans le prix du jeu, quoi.
Voilà.
Donc ouais, voilà, que ça te fasse pas ça, que ça te fasse pas en plus un truc rajouté où tu payes 350 euros juste pour ta caméra.
Voilà, donc ouais,
ils la mettront dans tous les packs Microsoft aussi. Dès que tu achèteras une 360, ce sera dedans.
Exactement. Donc voilà, ils ont fait le buzz, ils ont dit où ça sera vendu. Je pense que maintenant ils espèrent que les développeurs suivront. Alors oui. On verra bien si ça suit vraiment, mais je pense que ça peut donner naissance à des trucs vraiment très intéressants. Alors voilà, je sais pas, on va peut-être conclure au bout d'un moment parce que c'est quand même une chronique tech spéciale, mais ça commence à être un petit peu long.
Ça fait beau.
Voilà, donc on a fait le tour, on a parlé beaucoup de jeux, on a parlé un peu de technique. Je vous invite à quand même aller vous renseigner un petit peu sur internet si vous êtes intéressé, parce que c'était vraiment très riche, hein, comme vous avez pu l'entendre, on a du mal à finir. Donc voilà, on a fait le tour de à peu près de l'E3 en plus, parce que je pense qu'on a oublié quelques 2-3 trucs, mais je crois vraiment que dans ce qu'on a vu, on a vraiment la preuve que le jeu vidéo change dans sa façon d'être conçu, et d'être conçu déjà par les développeurs et les constructeurs, mais qu'on verra si le public le voit aussi comme ça.
On a oublié
ouais.
l'AstFM sur 360 et VidZone qui arrive.
Ils
n'ont pas le navigateur internet.
Ouais, j'ai voulu le passer parce que ça, c'est juste de l'amélioration du réseau.
Oui. VidZone sur PS3.
Voilà, c'est ça. Donc, ils améliorent un peu tout ça. Essayer de faire des ordinateurs avec des consoles de jeu, c'est voilà, casser les barrières. Donc, vraiment, oui, le monde du jeu vidéo évolue vraiment. Est-ce que le public va le ressentir de la même façon ? Je sais pas s'ils vont acheter. Ça risque d'être plus dur. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. On verra bien la fin de l'année. On verra bien le prochain E3. Mais pour l'instant, ça a l'air vraiment très intéressant. Et puis, on va peut-être s'arrêter là. Voilà, donc je vais maintenant conclure. Alors, Steve Jobs, merci d'être venu. Bonne soirée.
De
et
de
puis, au revoir à tout le monde.
Au revoir. Au revoir, Angelus.
Voilà. Au revoir.
Et puis, Angelus aussi. Dis au revoir au monde.
Au revoir les gens.
Voilà, c'est ça. Au revoir les gens.
Au revoir Gugus.
Voilà, merci. Et puis voilà, moi je vais me tourner vers les auditeurs. Hop, je me tourne. Et quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Continuez à écouter Pod Radio, le média nouvelle génération. Et salut.